Bienvenue à Comprendre son chien. Mon nom est Audrey Michel et je suis une amoureuse des animaux. Plus particulièrement, je me passionne pour la science comportementale. Avec ce podcast, je veux aider des gens comme moi, c'est-à-dire qui rencontrent des défis face au comportement de leur chien et qui veulent développer une relation plus harmonieuse avec lui. Le tout sans jugement et avec plaisir. Partager ma vie avec une chienne réactive a transformé la personne que je suis. C'est pourquoi je te partage ici mes réflexions et mon expérience, autant mes échecs que mes réussites. Parce que toi et ton chien, vous méritez de vous comprendre. Cette semaine, j'ai envie de parler d'autonomie dans le quotidien de nos chiens. Dans un premier temps, je vais parler de pourquoi on veut donner de l'autonomie à nos chiens. Et dans un deuxième temps, je vais parler de comment on peut faire pour donner plus d'autonomie à notre chien dans son quotidien. Puis, bien entendu, je veux donner le crédit à ma source d'inspiration pour cette saison-ci, qui est le livre « Canine Enrichment for the Real World » de Ali Bender et Emily Strong. Et dans leur livre, elles définissent l'autonomie comme étant la capacité d'avoir un certain degré de contrôle sur son environnement et pouvoir faire des choix qui aboutiront à des résultats souhaitables par l'animal. Et pourquoi, justement, on veut se préoccuper de l'autonomie pour nos chiens? Eh bien, imaginez-vous que votre vie entière, de votre réveil le matin jusqu'au soir lorsque vous vous couchez, vous n'avez aucune autonomie. Que tous les choix sont prédéterminés pour vous. On décide à quelle heure vous allez manger, qu'est-ce que vous allez manger, à quel moment vous avez le droit d'aller à la toilette, à quel moment vous pouvez sortir dehors pour profiter de l'air frais de l'extérieur. Vous avez envie de lire un livre pour vous divertir, mais on vous dit non. Tu n'as pas le droit de faire ça, tu vas aller t'asseoir dans une chaise tranquillement et tu ne bouges pas. Ça devient un enjeu de santé mentale dans une situation comme ça. Vous allez me dire probablement, Audrey, je vais devenir folle, je vais devenir fou si je vis une vie comme ça. Donc, si nous, on aurait de la misère avec une situation comme celle-là, mais on est capable d'imaginer que ça ne doit pas être évident non plus pour nos chiens de vivre des situations comme celle-là. Et si on va plus loin, il y a certaines situations et certaines méthodes d'entraînement qui non seulement enlèvent de l'autonomie à notre chien, mais qui peuvent mener à ce qu'on appelle de l'impuissance acquise ou résignation acquise ou aussi appelée impuissance apprise. Mais moi, le terme que j'ai employé, c'est impuissance acquise. Et c'est quoi l'impuissance acquise? Et comme le nom le sous-entend, c'est un sentiment d'impuissance qui est permanent et qui est généralisé. Et ce sentiment-là apparaît généralement à la suite d'un vécu traumatique par le chien ou par l'animal ou par l'humain, parce que ça ne concerne pas uniquement les chiens, c'est toutes les espèces qui peuvent souffrir d'impuissance acquise. Et d'où ça vient, la notion d'impuissance acquise? Ça vient des travaux du docteur Martin Seligman, j'espère que je prononce bien son nom, qui était un professeur et chercheur en psychologie à l'Université de Pennsylvanie. Et là, je vais vous partager les travaux qui ont mené justement à définir l'impuissance acquise, mais je vous avertis d'avance, c'est triste à entendre parce que les chiens qui ont participé à cette étude-là ont définitivement souffert et aujourd'hui, ça passerait probablement pas l'approbation éthique parce que c'est de la cruauté animale, mais en même temps, ça explique bien ce qu'est l'impuissance acquise, ça démontre bien ce que c'est, donc je trouve important de le partager. Mais si vous êtes sensible à ce genre de contenu, ben je vous inviterais peut-être à skipper ce bout de... ce que je vais faire, c'est que dans l'épisode, dans les notes d'épisode, je vais vous indiquer à partir de quelle minute j'arrête de parler de l'expérimentation. Donc, si vous voulez sauter, vous l'écoutez, si vous voulez écouter la suite de l'épisode, mais sauter la partie qui parle de cette expérience-là, vous pourrez le faire. Donc, dans les notes d'épisode, je vais mettre le lien. Ben, je vais pas mettre le lien, mais je vais mettre les minutes, la minute à laquelle je cesse de parler de l'expérience. Cette expérience-là s'est faite en deux parties. Dans la première partie, ils ont pris trois groupes de chiens qui étaient tous attachés à un harnais. Le groupe numéro 1, les chiens étaient attachés pendant une courte période de temps, puis étaient libérés. Pour les groupes 2 et 3, les chiens étaient attachés pour la durée de l'expérimentation, ils n'étaient pas libérés, et les deux groupes recevaient un choc électrique. Les chiens du groupe 2 avaient l'option d'arrêter le choc électrique en appuyant sur un levier. Les chiens du groupe 3 n'avaient pas l'option d'arrêter le choc électrique. Le seul moyen que le choc électrique arrête, c'était qu'un chien du groupe 1 ou 2 actionne le levier pour eux. Et une fois que l'expérience a pris fin, ce qu'ils ont constaté, c'est que les chiens du groupe 1 et 2 se sont remis plutôt bien et assez rapidement de leur expérience. Mais les chiens du groupe 3 ont démontré des symptômes qui s'apparentent à la dépression chronique. Et ils ont décidé de faire une deuxième partie où est-ce qu'ils ont repris les trois groupes de chiens. Et là, ils les ont mis dans un dispositif avec un petit muret. Donc, il était possible pour les chiens de sauter par-dessus le muret pour éviter de se faire donner un choc. Et là, ce qu'ils ont constaté, c'est que les chiens du groupe 1 et 2, eh bien, ont tenté de sauter le muret pour justement éviter les chocs. Mais la majorité des chiens du groupe 3 sont restés passifs et ont pas tenté de sauter le muret. Dans la première phase de l'expérience, ils ont appris qu'ils n'avaient aucun contrôle sur la situation. Donc, ils ont arrêté d'essayer. Ils se sont résignés à avoir les chocs. Donc, ils sont restés immobiles à gémir, alors qu'ils auraient pu facilement éviter les chocs. Mais ils n'ont même pas essayé parce que leur apprentissage dans la phase précédente, c'était que ben, ça ne donne rien. Peu importe ce que je fais, je vais recevoir un choc. Donc, je tenais à vous parler de cette expérience-là parce que ça démontre très bien c'est quoi de la puissance acquise. C'est une forme de dépression profonde et qu'on arrête d'essayer parce qu'on se dit « ça ne donne rien. Je vais simplement subir ce que les événements négatifs que je suis en train de vivre. » Et ça, c'est la résultante de quelque chose de traumatisant. Puis à partir de ce point, bon, je ne reviendrai pas sur les détails de l'expérience parce que peut-être qu'on a des gens qui ont décidé de sauter cette partie-là. Mais c'était simplement pour vous démontrer c'est quoi l'impuissance acquise et à quel point ça peut être profond de dire que on devient en quelque part convaincu qu'il n'y a rien à faire. Et pourquoi je voulais vous parler de ça, c'est parce que je pense que il y a certaines personnes qui, sans s'en rendre compte, valorise l'impuissance acquise. Dans le dernier épisode de la saison 2, j'avais parlé du fait qu'il y a certaines personnes pour qui un bon chien, c'est un chien qui est sans comportement, qui est behavioralist, que pour prendre l'expression anglaise. C'est un chien qui creuse jamais, qui jappe jamais, qui essaie jamais de voler de la nourriture sur les comptoirs. C'est un chien qui est constamment couché, qui dort. Donc, est-ce que ça, c'est vraiment un bon chien ou c'est un chien qui est en impuissance acquise? Parfois, je me pose vraiment la question, surtout quand on travaille avec des outils coercitifs comme le collier étrangleur, le collier à pic, le collier à choc électrique. Je me pose sérieusement la question, est-ce qu'on a vraiment un chien qui est obéissant ou est-ce qu'on a un chien qui est en impuissance acquise? Et ça ne veut pas dire que c'est seulement parce qu'on va utiliser des outils coercitifs que notre chien va tomber en impuissance acquise. On peut penser à, par exemple, de l'immersion ou du flooding en anglais. Ça aussi, ça peut provoquer de l'impuissance acquise chez nos chiens. Imaginez que vous avez terriblement peur des araignées. Et que là, je vous enferme dans une petite pièce où les murs sont couverts d'araignées. Et là, vous hurlez votre vie. Vous jetez au sol, vous tapez au sol, vous criez, vous... Mais peu importe ce que vous faites, vous êtes envahi par les araignées. Ben, ça se peut que vous soyez comme les chiens de l'expérience du Dr. Seligman et à un moment donné, vous allez simplement abandonner. Vous allez vous résigner à dire « je peux rien faire ». Est-ce que vous êtes guéri de votre peur des araignées? Pas forcément. Vous êtes seulement maintenant dans un état tellement dépressif que vous ne réagissez plus aux araignées. C'est différent. C'est pour ça qu'on veut toujours travailler graduellement avec nos chiens et que l'immersion, c'est une technique qu'on veut éviter. Hein, si notre chien a peur des enfants, par exemple, on ne veut pas l'amener dans une situation où est-ce qu'il va se retrouver entouré d'enfants, non seulement parce que, de un, ça peut être dangereux, mais parce qu'on ne veut pas, justement, que ça devienne un événement trop immersif pour lui et que ça pourrait être, justement, traumatisant. Donc, c'est important, au contraire, dans une situation comme celle-là, d'enseigner à notre chien qu'il y a du contrôle sur son environnement. Donc là, c'est sûr que je parle de chien réactif parce que mon expérience, c'est beaucoup avec ma chienne réactive Taiga. Mais par exemple, c'est d'enseigner à notre chien, ben, t'as peur des autres chiens. Tu sais que t'as l'option de t'éloigner de l'autre chien. Ça lui donne de l'autonomie à notre animal quand on lui enseigne des techniques, des stratégies comme ça pour avoir du contrôle sur son environnement. Puis justement, ben, on veut éviter les situations incontrôlables. Donc, moi, c'est un choix que j'ai fait, que j'admets que je trouve difficile parfois, mais j'amène pas mon chien dans les lieux publics où les chiens sont admis. Pourquoi? Parce que j'ai pas de contrôle sur les autres chiens. Et même si on a des règles très claires sur la tenue des chiens en laisse ici au Québec, dans les endroits publics, mon expérience, c'est que énormément de gens ne respectent pas ces règles-là. Donc, à peu près à chaque fois que je vais dans un endroit public où est-ce que les chiens doivent être tenus en laisse, il y a presque quasiment toujours quelqu'un qui est là avec son chien sans laisse. Et moi, je veux pas, justement, me retrouver dans une situation incontrôlable avec Taiga, avec un chien lousse, un maudit chien lousse, qui s'en vient en courant vers nous parce que, justement, je veux éviter de la mettre dans une situation incontrôlable pour elle. Et je trouvais ça, je vous l'admets, que c'est quelque chose que je trouve ça difficile parce que j'aimerais être en mesure de pouvoir aller moi aussi là, me promener dans ces lieux-là. Mais je fais le choix de ne pas l'amener pour justement avoir le contrôle sur les situations dans lesquelles je l'expose. Donc, quand on sort de la maison, bien, on sort toujours dans des lieux privés. Ça ne veut pas dire que j'ai 100% le contrôle de ce qui va se passer parce que ça arrive des imprévus. Mais j'essaie quand même de planifier d'aller dans des endroits où ce que je sais que ben, c'est un lieu privé, il ne devrait pas avoir d'autres chiens. C'est sûr que c'est un peu plus un casse-tête pour nous comme humains, mais c'est un choix que j'ai fait pour justement éviter qu'on se retrouve dans des situations problématiques, des situations potentiellement traumatisantes. Et justement, quand on parle de traumatisme, c'est pas nous qui décident si c'est traumatisant ou pas, c'est le chien qui décide. Mais comment on fait ça dans la vie de tous les jours, donner de l'autonomie à notre chien? Bien, c'est en lui donnant du contrôle sur son environnement. Et là, je pense entre autres aux soins coopératifs. Et là, si vous n'avez pas écouté dans la saison 1, l'entrevue que j'ai faite avec Iris Casting, je vous invite à retourner l'écouter. C'est vraiment un épisode passionnant. Puis elle parle justement aussi de cette notion d'avoir une porte de sortie, que l'animal a le choix de quitter le soin. Donc, vraiment, on est dans la vraie coopération dans une méthode comme celle-là. Donc, je vous invite fortement à aller le réécouter. Mais que c'est ça, que l'animal a le pouvoir de donner le rythme de son soin, puis il a aussi le choix de quitter. Imaginez, vous n'aimez pas le dentiste, vous avez une carie, vous devez aller vous faire faire un plombage. Qu'est-ce que vous préférez? Le dentiste qui va continuer no matter what, qui va voir même jusqu'à vous retenir physiquement pour effectuer son travail, ou le dentiste qui vous dit « Écoute, si vous vous sentez pas bien, là, levez la main, je vais arrêter, puis lorsque vous êtes prêt à recommencer, vous me faites signe, on va redébuter. » Qu'est-ce que vous allez préférer? Vous allez me dire l'option 2, bien, c'est la même chose pour notre chien. Donc, dans la mesure du possible, on veut faire des soins coopératifs avec notre chien. Et je dis dans la mesure du possible parce que, ben des fois, c'est pas toujours possible, mais vraiment, là, pour les soins réguliers, si je peux dire comme ça, je vous invite fortement à développer des soins coopératifs avec votre chien. Que ce soit pour la coupe des griffes, pour le brossage, et justement, dernièrement, j'ai assisté à la Cooperative Care Conference, qui se traduit par la conférence sur les soins coopératifs de Zoo Spenceful. Et il y avait justement une conférence sur les soins coopératifs chez le chat. Et là, j'oublie le nom de la conférencière, mais je vais le mettre dans les notes d'épisode. Et j'avais vraiment adoré parce que elle, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle offrait deux choix de brosse à son chat. Et son chat choisissait la brosse qui allait être utilisée. Et ça, j'ai vraiment trouvé ça génial et c'est vraiment quelque chose que j'ai l'intention d'implémenter moi-même avec Taiga. De dire, bon, OK, c'est l'heure du brossage, mais tu choisis la brosse que tu veux. Et bien sûr, tu as toujours l'option de, de prendre la porte de sortie si ça ne fait plus ton affaire. Une autre façon aussi qu'on peut donner du contrôle à notre animal, c'est en réfléchissant à notre espace physique. Donc, est-ce que mon animal a des safe spaces? Est-ce qu'il y a des endroits sécuritaires dans la maison où il peut se réfugier? Dans mon cas, Taiga, son espace sécuritaire, c'est sa cage. Et là, je fais un petit aparté parce que je sais que la cage, c'est un sujet controversé. Mais ce que je vais dire pour l'instant, c'est que la cage, je crois que ça peut être un outil tout à fait utile. Je l'utiliserai pas si je pensais le contraire. mais quand même, il faut que ça soit bien utilisé. Donc, c'est ce que je vais me contenter de dire pour aujourd'hui. Mais, dans le fond, qu'est-ce que je veux dire par c'est l'espace sécuritaire de Taiga, c'est que si elle va dans sa cage, on la laisse tranquille. Donc, on la touche pas. Je vais pas mettre la main dans sa cage pour aller ramasser ce qu'elle a. Tu sais, quand elle est dans sa cage, c'est son espace à elle. On n'a pas le droit d'y rentrer nos mains. On la dérange pas, etc. C'est vraiment son endroit à elle. Justement, si par exemple, vous avez des enfants, là, je vous renvoie à l'épisode que j'ai fait avec Maryse Chauvette au sujet d'introduire un chien dans sa famille quand on a des enfants d'âge scolaire ou préscolaire, on veut que le chien ait un endroit pour pouvoir, entre guillemets, se sauver des enfants. Un lieu où est-ce qu'on dit aux enfants, ça c'est l'espace du chien, quand le chien est là, t'as pas le droit d'interagir avec le chien. Parce que là, ça lui donne l'option de dire que s'il est dans une situation avec les enfants où est-ce que les enfants le dérangent, bien, il y a un endroit où est-ce qu'il peut aller se réfugier puis qu'il sait qu'à cet endroit-là, il va être tranquille. Donc, c'est ça que je veux dire par espace sécuritaire. Donc, ça peut être une cage, ça peut être une pièce dans la maison, mais l'idée, c'est d'avoir un endroit où est-ce que le chien sait qu'à cet endroit-là, on ne viendra pas le déranger. Tout à l'heure, je parlais d'enseigner à notre chien des techniques. Par exemple, comme je disais, ta gueule est réactive aux autres chiens, fait que ben, je veux lui enseigner, par exemple, mais regarde, t'es en mesure de t'éloigner du chien qui te fait peur. Donc, enseigner à notre chien des stratégies comme celle-là, mais aussi donner le choix à notre chien d'interagir ou non avec un autre animal ou avec un humain ou une personne. Donc, c'est vraiment à nous de se faire les porte-paroles, si je peux dire, de nos chiens. Tu sais, quand quelqu'un nous approche et nous demande « Est-ce que je peux flatter ton chien? » Ben, c'est pas de répondre oui ou non, c'est de dire « Ben, ça dépend si mon chien a envie de se faire flatter par vous. » Donc, vraiment, laisser le choix au chien de dire « Oui, j'ai envie d'interagir avec cette personne-là ou non. » Et ça va pour les chiens également. On a des chiens, par exemple, qui aiment tous les chiens. Il y a des chiens qui vont être sélectifs avec les chiens avec qui ils vont avoir envie d'interagir. Puis on a des chiens qui vont rien vouloir savoir d'aucun des autres chiens. Puis c'est correct, c'est à eux de décider ce qu'ils veulent et c'est à nous de respecter ça, à mon humble avis. Un autre aspect, ben c'est le choix de jeu et les préférences de jouets. Puis ça, je vous donne un exemple très concret parce que moi, Taiga, quand on l'a adopté, le concept du jeu, c'était complètement nouveau pour elle. Hein. Elle a grandi dans l'errance avec d'autres chiens. Fait que, tu sais, un concept de jouer avec une bébelle, c'était complètement nouveau pour elle. Et, mon Dieu, que j'aurais donc voulu qu'elle aime ça jouer à la balle, puis que j'ai acheté tout plein de jouets, puis ça marchait pas. Mais est-ce qu'elle voulait jouer? C'était faire de la bataille. Et là, moi, je me disais, mais mon Dieu, je peux pas simuler des batailles avec mon chien parce que là, mais je vais être en train d'encourager des comportements indésirables, qu'elle va faire, tu sais, par exemple, la prise en gueule ou quoi que ce soit. Là, je veux pas encourager ça. C'est donc, c'est donc terrible. Puis là, ce qui s'est passé, c'est mon conjoint qui a commencé à jouer avec elle de cette manière-là. Puis mon Dieu, qu'elle a aimé ça! Hey, qu'elle était heureuse de jouer, là, à faire, c'est ça, des simulations de bataille, qu'elle va courir après nous, nous, on va courir après elle, là, elle va faire une... Tu sais, elle va prendre, par exemple, notre avant-bras en gueule, mais jamais pour nous mordre, là, c'est vraiment une simulation. Et là, nous, on va la prendre, on va prendre nos doigts, on va les mettre dans son cou, un peu comme si nous, on faisait une prise en gueule envers elle. Puis ça, là, c'est définitivement son jeu préféré, de loin. Puis maintenant, elle va jouer un peu avec certains jouets, elle va toguer, par exemple. Ça, c'est un jeu qu'elle aime bien. Mais c'est pas rare qu'elle va abandonner le tog pour préférer du jeu de bataille. Et moi, je me suis obstinée pendant tellement longtemps à refuser de jouer à ça parce que j'avais cette idée que c'était pas un type de jeu approprié. Puis là, je me dis, pauvre chien, tout ce temps-là, tout ce qu'elle voulait, c'était simplement d'interagir avec nous de cette façon-là. Puis aujourd'hui, ben, je comprends que c'était ce type de jeu-là, c'est sa préférence. C'est pas devenu, dans notre cas, problématique. Même chose. Comme je disais, maintenant, il y a certains jouets avec lesquels elle va jouer, mais elle joue pas avec eux de la manière que je voudrais qu'elle joue. Tu sais, j'achète tellement des beaux jouets qui font squick-squick en me disant, là, elle va les prendre, elle va faire squick-squick avec, puis là, ça va durer longtemps. Non. Elle, là, c'est une stratégiste tueuse de squick. C'est impressionnant dans la vitesse à laquelle elle peut défaire un jouet pour aller chercher le petit morceau de plastique qui fait le bruit de squeak. Elle, c'est son objectif. Elle, son objectif, c'est de tuer le squeak. Et aussi, même chose quand on a quelque chose de style peluche, son objectif, c'est de l'éventrer et de le vider. Mais moi, je veux pas qu'elle joue comme ça avec ces jouets-là parce que je me dis, mon Dieu, ça coûte cher! Fait que là, j'étais toujours en train de l'arrêter, de l'empêcher d'exprimer ces comportements-là, jusqu'à un jour que je comprenne, ben garde, arrête d'acheter des jouets qui coûtent cher, achète des bébelles au Dollarama à place. Ça va te coûter pas mal moins cher et ton chien va être beaucoup plus heureux parce que il va avoir le droit de les détruire. Elle, c'est ça qu'elle veut faire avec ses jouets. C'est pas les mâchouiller doucement et gentiment comme plein d'autres chiens que je vois qui font. Puis que je me dis, mon Dieu, j'aimerais donc ça que mon chien ait un toutou préféré qui va se promener avec, puis qui va... Non, elle veut les éviscérer. Une autre façon aussi de donner de l'autonomie à notre chien, c'est avec les marches. J'en avais déjà parlé un peu auparavant, mais moi, c'est pas rare maintenant que je laisse Taiga choisir le chemin, puis même que des fois, je vais le dire pour moi-même, de dire de quel côté tu veux aller. Parce que si je le dis pas, mais là, je suis comme dans mon minding, de bon, on s'en va par là. Mais là, si je demande à Taiga, clairement, de quel côté tu veux aller, là, c'est clair dans ma tête que je lui donne le choix. Donc, si elle s'en va dans la direction que moi, j'aurais... qui n'est pas ma préférence, mais je vais respecter si c'est sa préférence à elle, parce que là, on est dans une situation où je lui donne le choix. Mais comme j'expliquais dans un épisode précédent, lors de la saison 2, c'est pas toujours le cas. Des fois, je vais dire « Non, désolé, pas aujourd'hui. » Puis on va prendre le chemin qui est, par exemple, le plus court parce que je dois rentrer à la maison parce que j'ai un rendez-vous, par exemple. Mais à d'autres moments, ben là, je vais vraiment lui laisser le choix de l'itinéraire qu'on va prendre. Et il va de même pour laisser le choix, par exemple, de s'arrêter et sentir. Puis, quelque chose que je me rends compte, c'est certaines personnes que je connais me disent « Oui, oui, je laisse mon chien arrêter et sentir. » Mais il laisse son chien arrêter et sentir pendant 5 secondes. C'est comme « Ok, t'as senti ça assez longtemps, on s'en va. » Mais ça se peut que le chien ait envie de sentir pendant 3 minutes parce que c'est vraiment intéressant l'odeur qu'il y a là. Mais nous, comme humains, rester stationnaire pendant 3 minutes au même endroit, on trouve ça long. Fait que, encore là, je vous amène à réfléchir de est-ce que vous laissez vraiment votre chien sentir comme il veut. Puis encore une fois, je comprends que des fois on est pressé puis qu'on n'a pas le temps puis que c'est correct d'avoir un non, désolé, pas maintenant ou là, faut continuer. Mais est-ce que vous avez des moments où est-ce que vous laissez vraiment votre chien choisir de sentir aussi longtemps qu'il veut? Et si vous êtes dans la même situation que moi, que vous êtes quelqu'un que vous trouvez ça long, attendre après votre chien qui sent après quelque chose, bien, qu'est-ce que vous pouvez faire pour rendre ça plus facile pour vous? Moi, personnellement, c'est que j'écoute des podcasts dans ce temps-là. Bien évidemment, ça dépend dans le contexte dans lequel je suis. Comme je vous disais, si je suis dans un terrain privé où est-ce que je suis en train de marcher avec mon chien puis que je sais qu'il n'y a pas d'autres chiens, je me permets d'écouter un podcast. Mais si je suis dans un environnement urbain, par exemple, dans un lieu public que je ne sais pas, qu'à n'importe quel moment, un trigger pourrait arriver, là, j'écoute pas de podcast parce que je veux être attentive à l'environnement, donc il y a quand même une distinction, là. Mais, tu sais, qu'est-ce qu'on peut faire dans ces moments-là pour nous aussi qu'on ait un certain contrôle sur notre environnement, parce que c'est bien beau donner du contrôle à notre chien, mais si nous, on sent justement que, ben là, c'est plate, puis là, je suis pognée pour attendre, puis ça me tente pas, puis c'est long, puis là, qu'est-ce que donc qu'il peut sentir? Ben, qu'est-ce que moi, je peux avoir comme contrôle pendant cette période-là que mon chien sent pour me tenir divertie moi-même? J'aimerais terminer en disant que donner de l'autonomie à notre chien, ça ne veut pas lui dire laisser faire n'importe quoi. Quand même pas. Vous avez le droit d'imposer des limites. Par exemple, votre chien, si vous ne voulez pas qu'il embarque sur le divan, c'est correct. Vous avez le droit de mettre cette limite-là. Si vous voulez que votre chien embarque sur le divan seulement quand il est invité, c'est correct aussi. Vous avez le droit de mettre cette limite-là. Mais est-ce que vous donnez de l'autonomie, des choix à votre chien dans d'autres aspects de sa vie? C'est ça qui est important de se poser comme question. Puis comme je disais, c'est pas obligé là, que à toutes les marches que vous allez prendre à votre chien, il prenne toutes les décisions. Ça m'arrive, moi aussi, là, que j'ai des matins qu'il faut qu'on sorte, mais que j'ai un rendez-vous, là. puis je veux pas être en retard, donc faut pas que ça prenne trop long. Je comprends ça aussi, mais faut être capable d'avoir une harmonie, si je peux le dire comme ça. De dire, il y a des moments où est-ce que c'est nous qui prenons les décisions, mais il y a des moments aussi où est-ce qu'on laisse l'opportunité à notre chien de prendre des décisions. Puis on parlait tout à l'heure des choix de brosse, par exemple, mais ça pourrait être simplement de dire, ben je donne le choix à mon chien, je lui donne quelque chose à mastiquer, ben je lui laisse le choix entre un boulistique ou une oreille de vache, puis c'est lui qui choisit. Tu sais, ça peut être des petites choses comme ça également. Ça n'a pas besoin d'être toujours des grosses décisions qu'on laisse à notre chien. Bref, ça fait le tour des éléments que je voulais vous présenter cette semaine. La semaine prochaine, on va changer de registre et on va parler de l'enrichissement du point de vue des besoins d'exercice physique de notre chien. Mais d'ici là, comme toujours, je vous invite à venir interagir avec moi, soit sur Facebook ou sur Instagram. Donc, sur Facebook, c'est la page du podcast « Comprendre son chien ». Sur Instagram, c'est « barre en dessous Audrey », »,« barre en dessous Michel », le tag sur lequel vous pouvez me retrouver. Et si vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui, ben je vous invite à le partager dans vos réseaux et à aller me laisser un commentaire et une note de 5 étoiles, si le cœur vous en dit, sur votre plateforme d'écoute. Ça va permettre de faire connaître le podcast à un plus grand nombre de personnes parce que je pense que l'enrichissement, c'est une thématique qui mérite d'être davantage explorée. Et ça me ferait bien plaisir si vous pouviez partager le mot aux gens autour de vous. Donc, d'ici à la semaine prochaine, beaucoup de plaisir avec vos amis à quatre pattes. Bye bye!